Mes chers amis, je vous propose de lire avec moi un passage dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, un enseignement de Jésus sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, Jean chapitre 16, les versets 5 à 15, Jean 16, versets 5 à 15. C'est donc Jésus qui parle. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et simplement un verset dans l'épître de Paul aux Éphésiens, un verset bien connu, Éphésiens 5, 18, nous ne lisons pas pour le moment le contexte, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, du dérèglement. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Le sujet sur lequel nous allons nous pencher pendant un certain temps est un sujet explosif. Et c'est un sujet très controversé. C'est d'ailleurs assez paradoxal, assez contradictoire qu'il soit si controversé, puisque le Saint-Esprit a entre autres, comme vocation d'unir les véritables enfants de Dieu. On a souvent comparé le Saint-Esprit à une sorte de ciment, et nous préciserons la chose, qui unit entre elles les pierres vivantes de cet édifice que l'Église de Jésus-Christ et qui unit aussi chacune de ces pierres vivantes à la pierre de base, à la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même. Or, il se trouve que ce Saint-Esprit est devenu, plus particulièrement depuis le début de ce siècle, l'année 1900, pratiquement d'ailleurs, un sujet de plus en plus controversé, une pomme de discorde entre les enfants de Dieu. Oh, je précise, simplement sans m'y arrêter, que des problèmes, il y en a eu avant sur la question. Il y avait, dans les tout premiers temps de l'ère chrétienne, je crois au deuxième siècle, tout un courant qui touchait la région de Colosse, vous connaissez l'épître aux Colossiens, qui s'appelait le montanisme, du nom d'un certain soi-disant prophète, Montanus, qui pensait qu'il était en quelque sorte le Saint-Esprit. Mais il y a eu toutes sortes d'histoires qui ont tourné autour de déviations sur le Saint-Esprit à cette époque. Vous voyez que ça a commencé très tôt. Ceci dit, il existe aussi un mythe, une légende, si vous voulez. Ce mythe, c'est que le sujet doit absolument être d'une grande difficulté. Tout ce qui concerne le Saint-Esprit doit être certainement très mystérieux. Il semblerait, selon certains, que la Bible ne soit pas très claire sur la question du Saint-Esprit, d'où la cacophonie. Alors, il faut préciser, le sujet est divin, parce que le Saint-Esprit est Dieu, nous aurons l'occasion de le redire. Et il est évident que, nous le verrons, on n'est pas Dieu en boîte ou en bouteille. C'est de Dieu que nous allons parler. Et lorsque l'on parle de Dieu le Saint-Esprit, on ne peut le faire qu'avec un infini respect et avec de grandes précautions pour ne pas fausser l'image de Dieu que l'on veut communiquer autour de soi. Mais ceci dit, Dieu a voulu que ce qui était essentiel à la vie de l'homme et à la vie du disciple de Jésus-Christ concernant ses relations avec le Saint-Esprit soit écrit de manière claire dans sa parole. Il est des domaines plus délicats dans lesquels il y a droit à la différence, à des positions variées, mais pour l'essentiel, Dieu est un Dieu qui se communique clairement pour que nous puissions vraiment vivre l'unité entre enfants de Dieu. Donc, disons-le simplement, le diable est passé par là. Le grand diviseur, le manipulateur, l'accusateur des frères, le séducteur est passé par là pour diviser, pour caricaturer, et c'est profondément dommage. Et je voudrais que nous vivions ce partage, cet enseignement des Écritures, non pas dans une sorte de climat conflictuel et d'attaque à l'endroit de qui que ce soit, mais simplement avec le souci de savoir ce que la Bible dit. Que nous dit Dieu lui-même dans sa parole sur la question. Et pour le faire, eh bien, il est nécessaire de poser des jalons. Il est nécessaire de déblayer le terrain. Il est nécessaire de cerner les zones dangereuses. Il est nécessaire encore d'éliminer des obstacles de base, des clichés, des idées fausses, si nous voulons avoir une vue tant soit peu saine et équilibrée. Martin Luther, un des pères à vue humaine de ce qu'on appelait la réformation ou la réforme, comparait le disciple de Christ à un cavalier ivre. Et il disait de lui, le croyant est souvent comme un cavalier ivre. Monté en selle, son ivresse le fait tomber d'un côté, remonté en selle, son ivresse le fait tomber de l'autre. Notre problème humain et notre problème de disciple de Christ, c'est que nous avons une tendance permanente au déséquilibre, y compris sur cette question du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons essentiellement ce matin, nous verrons jusqu'où nous irons, développer 5 recommandations capitales en vue d'une bonne approche sur la question du Saint-Esprit. 5 règles fondamentales, dont plusieurs d'ailleurs non seulement sont valables pour la question du Saint-Esprit, mais pour tout autre domaine d'étude dans la Bible. 5 points. Première recommandation capitale lorsqu'on veut traiter du Saint-Esprit, comme d'ailleurs de toute autre question dans la Bible. Premièrement, je ne dois pas vivre simplement de la conviction des autres. Ne pas vivre de la conviction des autres. Si vous voulez, un des plus grands dangers que nous courons en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est celui, souvent par recherche paresseuse de la facilité, c'est celui d'adopter la théorie la plus séduisante, apparemment la plus convaincante, qui nous est présentée de la manière la plus brillante, qui va nous accrocher peut-être soit sentimentalement, émotionnellement, soit même intellectuellement, et ainsi de courir de théorie en théorie. Au fur et à mesure que l'on entendra d'autres exposés, que l'on lira d'autres livres sur le même sujet, tout en négligeant l'étude personnelle des Écritures, tout en négligeant la vérification sérieuse des affirmations des meilleurs docteurs. Si vous lisez des hommes de Dieu qui ont marqué leur époque dans les siècles passés, je vous en cite en vrac, Finet, Thoré, Murray, Wesley, vous voyez, tous se terminent en E-Y ou A-Y, donc Dekker n'est pas de ceux-là, manifestement, vous voyez. Mais enfin, il y en a d'autres encore, Chambers, Moody, Simpson, Jesse, Penn-Lewis, etc. On pourrait en citer quantité. Tous ces amis, je les cite parce qu'ils ont parlé du Saint-Esprit. Et ils ont écrit sur le Saint-Esprit. Mais je dois pourtant, tout en étant reconnaissant que Dieu ait suscité ces hommes et ces femmes, puisque Jesse Penn-Lewis, au début de ce siècle, était une femme de Dieu remarquable. Eh bien, ces hommes et ces femmes ne sont pas la norme pour moi. Même si Dieu s'est servi de leurs écrits pour me faire du bien, je dois rester prudent. Et je dois continuer en permanence à vérifier leurs écrits à la lumière de la parole de Dieu. Et de la même manière, nous qui sommes ici ce matin, nous avons le devoir de vérifier ce que Maurice Dekker va essayer de partager avec vous de la part de Dieu à la lumière des Écritures. C'est important, c'est absolument fondamental. Vous ne devez pas vivre de ma conviction. Mais il importe que le Saint-Esprit, précisément lui-même, puisse développer en vous une conviction qui vous soit personnelle. Sinon, eh bien, de dimanche en dimanche, de mois en mois, et d'année en année, au fil de vos rencontres, de vos lectures, des exposés que vous allez entendre, de l'écoute de cassettes ou de la vision de vidéocassettes sur le sujet, vous allez rester instable. Et vous allez changer de conviction comme chacun change de chemise assez souvent quand il a un souci d'hygiène dans sa vie personnelle. Voilà pourquoi il nous est dit, par exemple, dans Actes 17, versets 10 et 11, que les croyants de la cité de Bérée avaient des sentiments beaucoup plus nobles que ceux de Thessalonique, et la noblesse de leurs sentiments était dans le fait qu'ils avaient le souci de vérifier l'enseignement de l'apôtre Paul lui-même. C'était Paul qui parlait. Ce n'était pas n'importe qui. Eh bien, ces croyants de Bérée avaient une noblesse de sentiments, et leur noblesse de sentiment se traduisait par une vérification scrupuleuse. À cette époque, c'était des quelques nouveaux écrits, mais essentiellement de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, pour voir si ce que Paul disait était exact. Ici, une petite remarque personnelle. J'ai eu le privilège de découvrir la personne de Jésus-Christ pour ma vie personnelle très tôt, dans mon enfance. Et bien entendu, dans mon adolescence et à l'aube de ma vie adulte, j'ai été troublé par la question du Saint-Esprit. D'autant plus que j'avais une vocation, je désirais servir le Seigneur, je croyais vraiment qu'il m'appelait à son service, et je voulais être au clair sur cette question. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais cette tendance à changer de conviction sur le Saint-Esprit comme on change de fruit. Et il est arrivé un moment où j'étais tellement troublé par mon instabilité spirituelle sur la question du Saint-Esprit, que Dieu m'a convaincu clairement qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule. que je pratique autrement. J'ai donc simplement ouvert un cahier vierge, un cahier d'école d'ailleurs, et j'ai pris la Bible à partir de Genèse 1, et j'ai lu toute ma Bible de Genèse 1 à Apocalypse 22, en notant soigneusement dans ce cahier tous les textes que je rencontrais dans la Bible et qui parlaient du Saint-Esprit. J'en ai rempli des pages et des pages. Vous imaginez qu'au fur et à mesure que j'écrivais sur cette question, dans mon cahier, des choses s'éclairaient. Je commençais à découvrir ce que l'on ne m'avait pas dit, ce que je n'avais pas lu. Et puis quand je suis arrivé à la fin de ma lecture de l'ensemble des Écritures et de ma copie dans ce cahier de tout ce que j'avais découvert à cette époque sur le Saint-Esprit, j'ai commencé à réfléchir. Parce que je commençais aussi à avoir une vue d'ensemble du sujet du Saint-Esprit dans la Bible. Et à ce moment-là, j'ai pris tous les livres qui existaient à cette époque en langue française sur la question du Saint-Esprit, et il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, et je les ai lus pour comparer leur contenu à ce que j'avais découvert dans mon étude de toute la Bible sur le sujet. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, mon cœur est devenu paisible. Parce que Dieu a pu développer dans ma vie ses convictions sur la base de sa parole. Je ne dis pas que dans certains domaines je n'ai pas quelque peu changé ici et là, il y a eu des retouches, il y a eu des correctifs, mais toujours dans des domaines qui n'appartenaient pas au centre du message du Saint-Esprit, mais à la périphérie de ce message, et je pense que jusqu'à ce que le Seigneur me reprenne auprès de lui et qu'il vienne enlever son église, je continuerai à rectifier le tir et à apprendre dans des domaines périphériques aux questions fondamentales que nous allons aborder. Voilà un premier point important. Ne pas vivre de la conviction des autres. Il ne s'agit pas de se refuser à écouter le message des autres. Dieu parle par sa parole et aussi par ceux à qui il a donné quelque chose à transmettre plus loin. Et dans toutes sortes de domaines, nous sommes, vous et moi, les uns et les autres, appelés à transmettre plus loin quelque chose que nous avons vraiment reçu de lui, sur la base de sa parole. Mais ne soyons pas à la fois orgueilleux pour penser que nous n'avons rien à recevoir des autres en dehors de l'Écriture, et ne soyons pas paresseux au point de penser qu'il suffit d'écouter les autres et que l'on n'a pas besoin d'aller soi-même dans les Écritures pour trouver le message de Dieu pour nous. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je l'ai laissé sous-entendre dans le premier. Deuxième recommandation, il importe d'examiner dans toute la Bible le sujet qui nous préoccupe. Dans toute la Bible. Un homme de Dieu qui a été vraiment un prophète de Dieu pour notre temps a écrit ceci: il faut la Bible entière pour faire un chrétien entier. Il faut la Bible entière pour faire un chrétien entier. Nous avons besoin d'une bonne diététique spirituelle. On parle beaucoup de diététique aujourd'hui, d'une alimentation saine, équilibrée. Mais ceci est beaucoup plus important encore et beaucoup plus valable dans le domaine du Saint-Esprit, dans le domaine spirituel. Et c'est très important notamment en ce qui concerne le Saint-Esprit. Par exemple, l'Ancien Testament seul est insuffisant pour tirer des conclusions générales sur le Saint-Esprit. Si quelqu'un voulait bâtir un enseignement doctrinal et même d'action du Saint-Esprit, simplement en s'appuyant sur ce que dit l'Ancien Testament, et voulait l'appliquer aux chrétiens d'aujourd'hui, il dirait des grosses bêtises. Tout simplement parce que, tout d'abord, le mot « esprit », quand il est question du Saint-Esprit, n'apparaît que de façon sporadique, ici et là, dans l'Ancien Testament. On a compté 126 références à l'esprit de la Genèse jusqu'à l'évangile selon Luc, mais 196 passages sur le Saint-Esprit à partir de l'évangile selon Luc et jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Vous voyez la grande différence, la disproportion. Sans compter que les passages les plus longs, les plus riches, les plus fouillés sur le Saint-Esprit sont dans la deuxième partie, c'est-à-dire essentiellement dans ces 196 références de Luc à Apocalypse 22. Je vous donne ici et là quelques exemples. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le mode d'action du Saint-Esprit est particulier. Manifestement, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'habitation permanente du Saint-Esprit dans la personne. L'Esprit se saisit de quelqu'un, il s'empare de quelqu'un, il tombe sur quelqu'un. On a même parfois eu quelques hésitations en rendre en français les termes exacts du texte hébreu, tellement... Ça, c'est frappant, n'est-ce pas? Par exemple, je vous donne un seul exemple, dans Juges 15, verset 14, il s'agit de l'histoire de Samson, il est dit à un moment donné dans le texte original que l'Esprit sauta sur Samson. Vous imaginez un beau film, la Robin des Bois, avec les hommes dans les branches, n'est-ce pas, qui sautent sur les cavaliers. L'Esprit sauta sur Samson. Ça, ce sont des formules que vous ne verrez, par exemple, plus du tout dans le cadre du Nouveau Testament. L'Esprit, donc, se saisit, s'empare, tombe sur, il est donné et retiré souverainement. Nous avons un exemple par excellence dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Saül, le premier roi. Dans 1 Samuel 10:10, il est question du moment où vraiment le Saint-Esprit s'est emparé de Saül, qui a reçu un nouveau cœur, mais curieusement, au chapitre 16 et au verset 14, vous avez, hélas, la déchéance de Saül lorsqu'il est dit que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voilà quelque chose qui appartient manifestement uniquement à l'Ancienne Alliance. Il n'est jamais dit dans la Nouvelle Alliance que le Saint-Esprit est donné pour se retirer ensuite. On peut l'attrister, on peut l'éteindre dans sa puissance d'action, mais en aucun cas le Saint-Esprit ne se retire de cette manière absolue qui est celle de l'Ancien Testament. Il y a d'ailleurs quelque chose d'assez particulier, c'est que on se rend compte que le Saint-Esprit, dans l'Ancienne Alliance, s'empare et utilise l'homme quel que soit l'état de son cœur. Vous vous souvenez de la réflexion sur Nombre 22 et suivant concernant le devin Balaam, utilisé malgré lui comme prophète de l'Éternel. Eh bien, dans Nombre 24, verset 2, il est question du Saint-Esprit qui s'empare de ce devin, de ce faux docteur, de cet homme qui pratiquait de l'occultisme, pour qu'il devienne, par la souveraineté de Dieu, un prophète messianique, c'est-à-dire un prophète qui va même annoncer la venue de Jésus-Christ. Voilà là quelque chose de tout à fait particulier à l'Ancien Testament. La prière de David, par exemple, dans le psaume 51 et dans le verset 13, ce psaume de repentance après la douloureuse histoire avec Bathsheba, au verset 13, David brisé dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il est évident que cette prière de David s'inscrit précisément dans le cadre de l'Ancienne Alliance où la révélation concernant le ministère du Saint-Esprit n'était pas ce qu'elle est devenue dans la Nouvelle Alliance. Et David réagissait avec les lumières spirituelles qui correspondaient à l'époque où il vivait. Ce que je vous dis ici concernant le Saint-Esprit, nous pourrions le dire sur quantité d'autres sujets. Si vous aviez demandé à Job, peut-être 2000 ans avant Jésus-Christ, ou à David, 1000 ans avant Jésus-Christ, ce qu'il pensait de l'au-delà, comment l'homme vivait dans l'au-delà après la mort, et Job et David vous auraient dit des choses très très limitées, lisez un petit peu certains livres poétiques, et vous verrez que nous avons, nous, grâce à la Nouvelle Alliance, depuis que Jésus-Christ est venu, que les Épîtres nous ont été donnés un message beaucoup plus clair, beaucoup plus complet, et dans un sens beaucoup plus juste, n'est-ce pas, parce que beaucoup plus précis que celui qu'avaient ces hommes de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Si vous allez frapper à la porte de la maison d'Abraham, hein, pour lui dire, alors, décris-moi Dieu tel que tu le connais, Abraham avait une connaissance de Dieu qui était certes extraordinaire, mais qui était très limitée. Et toute l'histoire d'Abraham tourne autour de la révélation de la personne de Dieu, Abraham. Dieu dit à Abraham, ben voilà, il faut que tu saches que je suis El Shaddai, le Dieu qui te suffit pleinement dans tes besoins, le Dieu de la fécondité, pour la question de la stérilité de ton épouse, etc. Et puis il y a toute une série de révélations de Dieu. On n'en est pas encore sous Abraham, à l'époque, par exemple, de Moïse, beaucoup plus tard, qui recevra une autre révélation, encore plus précise, la personne de Dieu. Voyez combien cela est important. Donc nous pourrions dire beaucoup de choses à ce sujet. La Bible nous dit que les prophètes ont salué de loin et avec joie le jour où l'Esprit serait répandu avec abondance. Quand il parle du Saint-Esprit venant en plénitude et dans une action toute particulière, ils en parlent toujours au futur. Ce n'est jamais dans le présent. Prenons un texte, je crois que nous avons chanté le chœur qui correspond à ce texte tout à l'heure, Ézéchiel 36 par exemple, un des beaux textes, Ézéchiel 36 versets 25 à 27, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et là, dans ce texte, manifestement, ceci est valable pour tout un chacun. Le Saint-Esprit n'est plus donné simplement à certaines personnes en particulier, il ne s'empare plus d'une ou l'autre personne pour un rôle particulier, non. Cela devient quelque chose de général, d'abondant, et qui est réservé à tous ceux qui reçoivent un cœur nouveau parce qu'ils sont purifiés de leurs péchés. C'est encore dans l'avenir, mais il y a beaucoup d'autres textes, Joël chapitre 2, Ésaïe 44, etc. Il est évident que les prophètes ne pouvaient pas formuler une doctrine de l'Esprit dans l'Ancienne Alliance, tout simplement parce que la pleine révélation de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit dépendait de la venue de Jésus sur la terre et d'une manière plus particulière de la Pentecôte. Il fallait que l'expérience toute particulière de la Pentecôte ait lieu pour que, enfin, nous soyons à même de recevoir une pleine révélation de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour l'Ancien Testament. Mais que dire des Évangiles? Les Évangiles également sont insuffisants à eux seuls pour nous donner une vue exacte, complète, concernant le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les Évangiles font allusion et traitent d'une situation toute particulière liée à la présence de Jésus sur la terre, au milieu des hommes, dans un territoire donné, limité, géographiquement situé, n'est-ce pas? Et c'est intéressant de voir, par exemple, comment le début de l'Évangile selon Luc évoque la question du Saint-Esprit. Luc 1, verset 15, il est question donc de la venue, la naissance future de Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Vous savez, c'est une situation toute particulière. Je ne crois pas qu'en tant que disciple de Christ, j'ai été rempli du Saint-Esprit dès le sein de ma mère, il a fallu que je me tourne vers Jésus-Christ. Il y a là donc dans cette dimension d'action du Saint-Esprit une situation tout à fait particulière liée à l'aurore de la Nouvelle Alliance, au précurseur de Jésus-Christ, Jean-Baptiste, celui qui devait ouvrir le chemin, préparer la voie, être une voie dans le désert. Mais vous ne pouvez pas, manifestement, bâtir tout un message équilibré doctrinalement sur le Saint-Esprit simplement à partir de ce texte. Parce que vous risquez de généraliser quelque chose qui était tout à fait exceptionnel. Si vous allez au verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Remarquez que nous avons le langage de l'Ancien Testament encore. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Si vous allez au verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alors je l'expliquerai plus tard, là c'est une expression tout à fait particulière. C'est un temps qui est utilisé dans le texte original du Nouveau Testament qui laisse entendre que ça a été subit. À ce moment-là, dans cette situation toute particulière, il y a eu comme une sorte de raz-de-marée du Saint-Esprit dans la vie de cette femme de Dieu. Si vous allez plus loin encore, au chapitre 2, par exemple, au verset, même encore au chapitre 1er, verset 67, même chose, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, dans cette situation-là, le Saint-Esprit s'empare de lui et il prophétise. Chapitre 2, versets 25 à 26, c'est encore la même chose. Il est dit de Siméon que l'Esprit Saint était sur lui, c'est intéressant. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Bref, on se rend compte que tout ce qui concerne le Saint-Esprit là appartient encore à une période transitoire. C'est encore le langage de l'Ancien Testament qui est utilisé. Jésus-Christ est en train de naître, les choses commencent à changer. Et puis alors nous avons dans les évangiles les fameux passages bien connus de Jean au chapitre 4, verset 14. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il est évident qu'il y a là allusion très directe à l'action du Saint-Esprit, au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'un peu plus tard, dans Jean au chapitre 7 et dans les versets 37 et suivants, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, sous-entendu, n'était pas encore manifesté, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous pourrions prendre quantité d'autres textes, mais vous remarquez que ces deux textes parlent de l'action du Saint-Esprit au futur. Nous sommes dans les évangiles, c'est Jésus qui parle, et pourtant il parle là du Saint-Esprit dans son action puissante et abondante au futur. Et puis vous avez les fameux chapitres 14 à 16 de ce même évangile selon Jean. L'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit alors qu'il est sur son lit d'agonie, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et lorsqu'on lit le reste du Nouveau Testament, c'est-à-dire les Épîtres, on se rend compte que tout l'enseignement des Épîtres est en accord parfait avec cet enseignement de Jésus dans la chambre. C'est ce qu'on appelle un enseignement normatif. Quand Jésus parle, ce qu'il dit est valable pour tout le temps. C'est pourquoi nous devons étudier avec beaucoup d'attention ce qui est dit sur le Saint-Esprit dans Jean chapitre 14 à 16. Parce que c'est la norme. Jamais quelqu'un ensuite, dans les Épîtres, n'a osé dire, et heureusement, ce que Jésus a dit là, c'était pour une époque. Ce que Jésus a enseigné, ce qui est sorti de sa bouche durant son ministère terrestre, sur la question du Saint-Esprit, est valable absolument pour tous les temps. La plaque tournante, c'est ce qu'on appelle la glorification de Jésus. Tout a été clair, tout est devenu clair à partir de la glorification de Jésus, c'est-à-dire de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, de son ascension et de la Pentecôte. Ça, c'est la glorification de Jésus. La glorification de Jésus couvre tout cet ensemble d'événements et aucune œuvre permettant l'habitation éternelle de l'Esprit dans la vie du croyant ne pouvait avoir lieu avant cette glorification. Ça, c'est le grand tournant. Il fallait aller jusqu'à la Pentecôte pour qu'il y ait cette situation complètement différente avec l'entrée du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui sont devenus alors vraiment des hommes et des femmes régénérés. Ce qui m'amène à dire ceci, c'est que la position d'attente des disciples de Jésus est une position exceptionnelle. Les disciples de Jésus ont vécu une situation exceptionnelle. Une situation de transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ils ont vécu à la fois à cheval sur l'ancienne alliance et sur la nouvelle alliance. C'était une situation en quelque sorte très inconfortable. Depuis lors, personne n'est dans cette situation. Vous et moi, nous ne vivons pas une situation à cheval. Jésus-Christ est retourné au ciel. Il a répandu le Saint-Esprit. Nous avons tout le message des Épîtres qui est véritablement, plus l'enseignement de Jésus directement lui-même sur le Saint-Esprit, qui est véritablement ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Vous avez par exemple un texte que je ne vais pas vous commenter maintenant, mais dans Jean chapitre 20, versets 22 à 23, qui appartient à cette transition, où il est dit, c'est juste au moment de la résurrection, quand Jésus apparaît à ses disciples, qui sont apeurés, n'est-ce pas, qui se sentent tout seuls, et le voilà qui arrive, là, subitement, et puis il leur parle, il veut leur communiquer sa paix, et il ajoute ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. » Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On ne peut pas se permettre d'interpréter ce texte n'importe comment. Certains s'appuient sur ce texte pour dire qu'il y a effectivement une réception du Saint-Esprit en plusieurs étapes de notre temps. Nous disons non. Tout simplement parce que la situation des disciples, je le répète, était une situation transitoire. Lorsqu'il est dit, nous l'avons lu tout à l'heure, dans Jean 16 et au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Mes amis, il faut tenir compte de ce texte. Si Jésus a dit à ses disciples qu'il ne pourrait pas envoyer le Saint-Esprit avant d'avoir été rappelé auprès du Père, c'est-à-dire avant la Pentecôte, il ne peut ensuite, au chapitre 20 et dans les versets 22 à 23, dire le contraire. Et leur dire, ah, écoutez, ce que je vous ai dit dans la chambre haute n'était pas valable, je me suis trompé, alors maintenant vous allez le recevoir quand même, n'est-ce pas ? Ah non ! Cela veut dire simplement qu'il faut réfléchir au contenu des versets 22 et 23 et essayer de comprendre ce que ces textes pouvaient bien enseigner pour la situation particulière des disciples, qui n'est pas notre situation. Alors il y a quelques éléments intéressants, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Par exemple, curieusement, là au verset 22, quand il est dit « recevez le Saint-Esprit », il n'y a pas d'article défini dans le texte grec, c'est-à-dire littéralement « recevez du Saint-Esprit ». Et il faut savoir que généralement, dans le Nouveau Testament, dans les rares cas où cet article définit le n'est pas présent lorsqu'il est question du Saint-Esprit, il n'est pas question en quelque sorte du don de sa personne, mais de son activité particulière. Et là, manifestement, il est question du lien avec le verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Manifestement, Jésus est en train de préparer l'équipement de ses disciples, parce que c'est sur eux que va reposer la lourde responsabilité d'être les pierres de base de l'Église qui va bientôt naître. Alors je ne vais pas développer tout ce thème ici, il y aurait beaucoup à dire sur cette question, mais nous n'avons pas le droit d'utiliser ce texte, qui est un texte de transition pour la situation toute particulière des disciples, et d'appliquer ce texte pour nos vies, en disant que je peux recevoir, moi, le Saint-Esprit par petits morceaux. Nous aurons l'occasion d'y revenir d'ailleurs plus tard. Alors nous avons vu que l'Ancien Testament est insuffisant. Les évangiles à eux tout seuls sont insuffisants. Même s'ils contiennent déjà un enseignement valable pour tous les temps, normatif, de Jésus, mais les actes des apôtres sont insuffisants à eux tout seuls. Le livre des actes des apôtres, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Et c'est un livre qui appartient à un contexte bien particulier, à un contexte tout à fait unique dans l'histoire. Le livre des actes, c'est tout d'abord le livre d'inauguration de l'Église. L'Église de Jésus-Christ, corps de Christ. Et toute inauguration se traduit en événements particuliers. Et vous le savez, quand on inaugure, eh bien, il y a toutes sortes d'aspects particulier d'un cérémonial, n'est-ce pas ? Avec rubans tricolores, etc., etc., n'est-ce pas ? Bon, une fois que l'inauguration est finie, elle est finie. On ne va pas recommencer le dimanche suivant, n'est-ce pas ? Alors, le livre des Actes, c'est une inauguration. L'inauguration d'une ère nouvelle, qui est précisément l'ère de l'Esprit. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que l'Ancien Testament, c'est en quelque sorte Dieu au milieu de son peuple. C'est ce qui est dit par exemple dans Exode 25, verset 8. « J'habiterai au milieu de vous. » Les évangiles, c'est littéralement Jésus auprès des siens, avec les siens. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce que Jésus dit même en parlant, en annonçant la venue du Saint-Esprit. Il dit « Mais pour le moment, je suis avec vous. » Mais bientôt, je serai en vous. Et en fait, c'est ça l'ère du Saint-Esprit. À partir du livre des Actes, c'est Dieu en nous. Ancien Testament, Dieu au milieu de son peuple. Évangile, Dieu en Jésus-Christ avec les siens. À partir de la Pentecôte, Christ en vous, l'espérance de la gloire, précisément lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Cette inauguration va comprendre trois étapes bien distinctes. Regardez acte 1, verset 8. Acte chapitre 1, verset 8. Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. En réalité, vous avez là le plan du livre des actes des apôtres. Parce que acte 2, c'est le premier accomplissement, vous serez mes témoins à Jérusalem, n'est-ce pas ? Ça démarre à acte 2. Et puis, toute la Judée, dans les chapitres qui suivent. Ensuite, acte 8, vous avez une nouvelle inauguration. Parce que l'évangile est annoncé aux Samaritains. Et il y a une situation tout à fait particulière au niveau des Samaritains qui va d'ailleurs amener une action de l'Esprit tout à fait particulière aussi dans le chapitre 8 et dans les versets 15 et suivants.
Ça, c'est l'accomplissement de la deuxième partie du verset 8, n'est-ce pas? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, c'est le chapitre 10. Chapitre 10, l'histoire de Corneille, l'évangile annoncé aux païens, la nécessité de vaincre la résistance de Simon-Pierre, le juif pieux, le nationaliste, n'est-ce pas? Et donc, l'explosion de l'évangile vers le monde païen. Et là, à nouveau, quand il est question du Saint-Esprit, il y a des manifestations particulières. Acte 2, acte 8, acte 10. Et curieusement, chaque fois, nous trouvons le même personnage clé présent dans ces trois chapitres, Simon-Pierre. Après, il va passer derrière. Un autre va prendre le relais, Paul. Mais dans Actes 2, 8 et 10, on dirait aujourd'hui c'est Pierre la vedette. Hein. On se comprend. Pierre est l'artisan principal, parce que Jésus le lui a dit, n'est-ce pas, déjà dans l'évangile selon Matthieu, il avait annoncé la chose que l'on a très mal interprétée, n'est-ce pas, lorsqu'il est dit au chapitre 16 de Matthieu, verset 18, « Moi je dis que tu es Pierre, que sur ce roc, là, il y a un jeu de mots, je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, je te donnerai les clés du royaume des cieux, n'est-ce pas ? Les clés du royaume des cieux. » Et c'est vrai qu'on voit déjà ce premier accomplissement, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte sur les clés aujourd'hui, il s'agissait d'ouvrir en quelque sorte la porte de l'église de Jésus-Christ dans cette triple inauguration, notamment acte 2, acte 8, acte 10. Les Juifs, ceux qui étaient à mi-chemin entre les Juifs et les païens, c'est-à-dire les Samaritains, et puis ceux qui étaient vraiment tout à fait païens. Pour ces trois phases de l'inauguration de l'Église de Jésus-Christ, il y a des événements tout à fait particuliers qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui, tout simplement parce que nous ne sommes pas dans une situation d'inauguration. Et puis, il y a un quatrième texte qui va dans le même sens, c'est donc acte 19, une situation unique, la situation des disciples de Jean-Baptiste, qui ignoraient tout sur l'essentiel, qui manifestement n'étaient pas régénérés, et qui ont dû donc entendre un enseignement complémentaire à ce qu'ils avaient reçu simplement par le biais de Jean-Baptiste pour pouvoir se tourner vers Jésus-Christ et appartenir de cette manière au peuple de Dieu. Alors là aussi, il y a une manifestation tout à fait particulière, mais que je sache, il n'y a pas à l'heure actuelle, dans le monde moderne, des disciples de Jean-Baptiste. Ça appartenait à une époque unique de l'histoire. Alors vous le voyez, je le répète, chaque étape a été marquée d'événements particuliers qui étaient destinés à signaler l'accomplissement extraordinaire. L'Église est née, ça y est. Jésus-Christ est monté au ciel, il accomplit sa promesse, le Saint-Esprit est répandu, il faut que vous le sachiez, c'est un phénomène tout à fait nouveau, c'est une inauguration, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre, il faut que chacun le sache, et il faut que les Juifs convertis de Jérusalem, les Samaritains convertis à Jésus-Christ, et les païens puissent vraiment vivre dans l'unité, d'où la nécessité d'une action harmonieuse tout à fait particulière, pour que cette unité soit possible. Il fallait préserver l'unité de l'Église naissante. Voilà le caractère tout à fait particulier du livre des Actes. Nous n'avons pas le droit de bâtir un enseignement sur le Saint-Esprit simplement en nous servant du livre des Actes, à cause de cette particularité. Je pourrais en dire tout autant de la vie de l'Église. Nous l'avons vu d'ailleurs, tant soit peu, dans l'histoire de Barnabas, dans acte 2. Dans l'Église primitive, on mettait tout en commun. Parce qu'il y avait une situation tout à fait particulière à Jérusalem. Ceux qui se tournaient vers Christ étaient déchus de tout. Ils avaient besoin de se serrer les coudes. C'était une situation de crise, une situation difficile à vivre. Alors, on mettait tout en commun. On vivait une vie communautaire toute particulière, qui a été unique pendant un certain temps. Elle ne s'est d'ailleurs pas prolongée tout au long du livre des Actes. On n'a pas le droit de vouloir que l'Église de Jésus-Christ vive aujourd'hui pratiquement comme dans Acte 2. Et il est intéressant de constater que tout au long de l'histoire de l'Église, des croyants ont pensé qu'il était sage de reproduire cette vie communautaire. Et ils ont tout vendu, ils ont tout mis en commun, ils se sont mis à vivre ensemble dans des grandes propriétés. Et ça a tourné très mal. Notre ami Karl pourrait vous en raconter sur l'Allemagne, parce qu'alors en Allemagne, ils ont battu des records dans ce domaine. On est devenu sectaire au possible, il s'est passé des choses terribles. Tout simplement parce qu'on voulait bâtir un modèle d'église simplement en s'appuyant sur Acte au chapitre 2. Acte 2 n'est pas normatif en ce qui concerne la marche quotidienne de l'église locale. Cela donne des indications, mais il faut voir immédiatement après ce que disent les épîtres. Le livre des actes ne doit jamais être dissocié des épîtres. Ce que les épîtres reprennent du livre des actes et développent, alors d'accord. Mais là où les épîtres vont dans une autre direction générale, ou se taisent, on n'a pas le droit de vouloir appliquer le message des actes tel quel pour notre vie aujourd'hui. L'importance des épîtres, tout simplement parce que les épîtres, c'est l'enseignement. Les épîtres fixent la doctrine pour tous les temps. Il y a un enseignement de Jésus et un enseignement des épîtres qui sont en pleine harmonie. Vous ne verrez jamais, je le redis, les rédacteurs inspirés du Nouveau Testament dans les épîtres dire quelque chose qui soit en contradiction avec ce que Jésus a dit. Et si à un moment donné, vous tombez sur un texte dans lequel vous avez le sentiment que ce qu'un apôtre, Paul ou un autre, écrit dans les Épîtres est en contradiction avec ce que Jésus a dit, réfléchissez bien. Essayez de comprendre. Analysez le contexte. Demandez des explications. Parce que l'enseignement de Jésus et l'enseignement des Épîtres n'est jamais en contradiction. On comprend pourquoi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a présidé aussi à ce qu'a dit Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a présidé à ce qu'ont dit les rédacteurs du Nouveau Testament. C'est le Saint-Esprit qui remplissait Jésus-Christ parfaitement lorsqu'il enseignait les disciples dans la chambre haute. Et c'est le même esprit qui remplissait les rédacteurs du Nouveau Testament et des Épîtres lorsqu'ils donnaient l'enseignement que nous avons dans notre Bible. Croyez-vous que le Saint-Esprit puisse se contredire? Le Saint-Esprit ne se contredit jamais. Jamais. Et le problème, c'est qu'en refusant de respecter certaines règles, on place parfois le Saint-Esprit en contradiction avec lui-même dans sa parole. Je prends un exemple, très rapidement. Ni Jésus, ni les actes, ni les épîtres ne parlent, je le dis clairement dès maintenant, bien que nous y reviendrons, d'un baptême du Saint-Esprit, seconde expérience, accompagné obligatoirement du parler en langue. Il faut le dire clairement. Ni, je le répète, Jésus, ni les actes, ni les épîtres ne parlent de cela. Deuxièmement, ni Jésus, ni les actes, ni les épîtres n'exhortent qui que ce soit à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Vous n'entendrez jamais Jésus dire, où que ce soit, il faut que vous recherchiez de tout votre cœur le baptême du Saint-Esprit. Je vous demande de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Nous le verrons. Quand Jésus en parle, il dit, vous serez baptisés. Quand Jean-Baptiste l'évoque, c'est dans le même sens. Vous n'avez pas un seul texte qui dise cela. Il y a une harmonie extraordinaire de tout le Nouveau Testament qui montre le baptême du Saint-Esprit comme correspondant à la régénération. à la nouvelle naissance. Et cela est en accord, et ça c'est intéressant, en accord absolu avec le message de l'Ancien Testament. Vous avez, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2, où l'apôtre Paul utilise l'Ancien Testament dont il était saturé. Et il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été, tiens, c'est intéressant, été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. C'est un texte extraordinaire. Parce que Paul se sert tout simplement de l'Ancien Testament, vraiment comme un livre d'images, comme je le dis souvent, n'est-ce pas ? En soulignant une chose claire, vous savez qu'avec la Pâque juive a eu lieu la délivrance extraordinaire du peuple d'Israël à cause du sang de l'agneau parfait, adulte, âgé d'un an, sans défaut, immolé, n'est-ce pas ? Et qu'au moment même où le peuple s'ébranlait à cause de la Pâque, la nuée était là. Ils ont été baptisés dans la nuée à partir de l'instant même où Pharaon disait « Écoutez, je suis obligé de vous laisser aller, partez, partez, partez le plus vite possible, parce que c'est la catastrophe, n'est-ce pas ?» Baptisés dans la nuée, baptisés du Saint-Esprit. La nuée était une annonce extraordinaire du ministère du Saint-Esprit qui guide les enfants de Dieu. Or, tout de suite après, n'est-ce pas ? Peu de temps après, vous avez le baptême en Moïse dans la mer. Dans la mer. Ce qui était fait dans la nuée devait être aussi fait dans la mer. Et je suis persuadé qu'il y a là une allusion à cette double dimension absolument indissociable, baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau. Et d'ailleurs, après, il est intéressant de constater qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et moi, cela me fait penser à la scène, à la communion fraternelle. Et nous avons là, en trois versets, un résumé ramassé, mais extrêmement précis. Baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau, partage de la scène qui est le plus beau des symboles de la communion avec Christ et de la communion des enfants de Dieu entre eux. Voyez cette unité absolument fantastique de l'ensemble des Écritures. Ma conclusion sur ce deuxième point qui était le plus long est pour dire ceci, et là je cite un homme de Dieu, si nous sortons un texte de son contexte, nous obtenons un prétexte. Nous n'avons pas le droit de lire les Écritures sans tenir compte du contexte. Et beaucoup d'erreurs se sont développées concernant le ministère du Saint-Esprit simplement parce que l'on n'a pas tenu compte de cette règle fondamentale. Pour avoir un enseignement équilibré sur le Saint-Esprit et un enseignement complet sur le Saint-Esprit, l'Ancien Testament ne suffit pas, les évangiles ne suffisent pas, les actes ne suffisent pas, les épîtres et l'enseignement de Jésus sont la norme, et il faut s'appuyer sur la totalité des Écritures. Il faut le faire. Un homme de Dieu qui a écrit un livre remarquable sur le Coran et la Bible dit ceci, « Ne citer un verset que partiellement pour le faire concorder avec mes théories, c'est oublier les exigences de la vérité. Omettre volontairement de mentionner les autres versets qui traitent tous du même sujet parce qu'ils contredisent ma théorie, c'est infléchir la vérité. » Nous devons être honnêtes, nous devons être intègres. Dieu nous a donné 66 livres, une véritable bibliothèque. C'est sur les 66 livres qu'il nous faut nous appuyer si nous voulons avoir des conceptions équilibrées. Enfin, j'aimerais rapidement souligner que le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas une force, il n'est pas un fluide, Il n'est pas une influence. J'avais dans mon bureau, avant-hier soir, deux témoins de Jéhovah, plus un jeune garçon d'ailleurs, qui semble faire ses armes dans l'âge de 12 ans à peu près. Et j'ai dû leur dire que je ne vois nulle part dans les Écritures que le Saint-Esprit soit simplement une influence, une sorte de fluide. Le Saint-Esprit n'est pas une matière, il n'est pas une chose, il n'est pas une chose ou une quantité de quelque chose. Il n'est pas non plus un objet à notre disposition, même si certaines images pourraient le laisser croire. Il y a des images qui sont là pour que nous puissions comprendre, comme il est dit que la parole est une épée, bien entendu que la parole n'est pas une épée. Elle est une épée pour que nous puissions comprendre son caractère tranchant, cette manière dont le Saint-Esprit perce notre conscience, la transperce, comme le cœur de Marie a été transpercé, n'est-ce pas ? Ce sont des images qui sont une faible expression de la réalité pour que nous puissions comprendre. Et il faut faire attention donc en ce qui concerne le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne se manipule pas. Le Saint-Esprit ne se prend pas par quantité. Le Saint-Esprit ne vient pas par morceaux. C'est une personne qui se reçoit dans sa totalité, parce qu'il est vivant. Un cadavre peut se recevoir par morceaux. Le roi Saül a fait faire l'horrible expérience à un certain nombre de personnes, en envoyant des morceaux de cadavre. Mais le Saint-Esprit n'est pas un cadavre. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Et le Saint-Esprit agit donc comme une personne, en prenant la place que nous lui accordons et en agissant en fonction de la liberté que nous lui laissons. Et ce qui me trouble, c'est parfois la facilité déconcertante avec laquelle on manque de respect vis-à-vis du Saint-Esprit. En voulant lui demander d'obéir à nos ordres, en voulant en quelque sorte le manipuler, alors qu'il est véritablement Dieu. J'ai relevé dans mon fichier ce matin une illustration à laquelle je pensais, et c'est tout à fait authentique, d'un curé de paroisse qui avait le sens du spectacle. Ça s'est passé dans la Somme, et le jour de la Pentecôte, il avait imaginé de faire lâcher un pigeon depuis le clocher, au moment où, sur le parvis de l'église, devant la procession des fidèles, il prononcerait la phrase « Esprit Saint, descendez sur nous ». Et c'est le sacristain qui fut chargé de cette tâche. Il mit le pigeon dans un sac, monta dans le clocher et attendit, et il ne se produisit rien lorsque le curé prononça la phrase en question. Alors, quelques instants plus tard, on entend simplement une voix qui vient du clocher et qui dit « Il est étouffé !» Le pauvre pigeon avait été étouffé dans son sac. J'ai peur que nous ayons parfois ce type de conception du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Dieu attend de notre part soumission, profond respect, langage sobre et approprié, parce qu'il est Dieu. Ça, c'est la troisième des grandes recommandations. Chaque fois que j'évoque la personne de Dieu, le Saint-Esprit, je dois toujours me souvenir qu'il est Dieu, qu'il ne se donne pas par petits morceaux, qu'on ne le manipule pas, qu'on ne tape pas du pied comme un enfant capricieux pour l'obliger à faire certaines choses. Dieu est Dieu, et nous lui devons un profond respect. Quatrièmement, l'humilité du Saint-Esprit. L'humilité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est humble. Il glorifie Christ. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Jean 16, 12 à 15. Le Saint-Esprit aime mettre le Christ sur un piédestal. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. il applique au cœur du croyant l'œuvre de Jésus-Christ. Il lui révèle, il lui enseigne Christ, il transforme progressivement le croyant à la ressemblance de Christ. Et nous aurons l'occasion de le dire. Si vraiment le Saint-Esprit domine dans ma vie, ce n'est pas de lui que je parlerai. Un croyant rempli du Saint-Esprit n'est pas un croyant qui parle toujours du Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. Les Écritures nous montrent qu'un croyant qui est rempli du Saint-Esprit est dominé par la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut lorsqu'il vient demeurer dans le cœur de l'âme. Il veut exalter Christ. Il veut que Christ occupe la première place. Il veut que l'homme parle de Jésus-Christ. Lui, en quelque sorte, il s'efface. Je crois que ça, c'est aussi une chose très importante. Et c'est ce qui fait que j'aime le dire. Vous n'avez pas une seule prière dans les Écritures qui soit adressée au Saint-Esprit. Il n'y a, je dis bien, pas une seule prière dans les Écritures qui soit adressée au Saint-Esprit. Il y a un texte tout à fait particulier où l'on voit un prophète parler à l'Esprit, Ézéchiel, sur l'ordre de Dieu, pour lui communiquer un ordre de Dieu. Mais ce n'est pas une prière. C'est un texte tout à fait unique dans l'histoire où, sur l'ordre tout à fait unique de Dieu, un prophète inspiré de la part de Dieu ordonne à l'Esprit de faire quelque chose. Donc on ne peut même pas s'appuyer sur ce texte pour justifier une prière au Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait que généralement je suis très gêné. Lorsque je chante un chœur ou lorsque j'entends des prières qui sont adressées au Saint-Esprit. Parce que en réalité, je prie Dieu le Père par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je prie Dieu le Père et je le fais par le Saint-Esprit. Je peux aussi prier le Christ parce que les Écritures le montrent à bien des reprises, mais vous ne verrez jamais une prière adressée directement au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit aussi dans la prière, il tourne notre regard, notre mentalité, notre pensée, nos conceptions, nos soupirs vers le Seigneur. Et enfin, je termine, et je voulais terminer cet aspect-là, cinquième recommandation, le Saint-Esprit est l'inspirateur et l'enseignant des Écritures. Le Saint-Esprit est l'inspirateur et l'enseignant des Écritures. Alors, simplement un ou deux textes. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 et 11. Dieu nous a révélé des choses tout à fait particulières, la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc il nous est dit ici que le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les desseins de Dieu. Un deuxième texte important, dans 2 Pierre 1, verset 21, 2 Pierre 1, verset 21, je lis à partir du verset 20. « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » On pourrait écrire « privé » ici. Pas d'interprétation privée. On ne peut pas comme ça interpréter la Bible n'importe comment en faisant l'Église buissonnière, en disant « moi c'est ce que je pense, peu importe ce que l'Église pense, l'essentiel c'est que ce que je pense, moi, soit ma formule qui me plaise, n'est-ce pas ?» Non, pas d'interprétation privée. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et le terme « poussé » qui est utilisé ici, c'est un terme que l'on retrouve par exemple dans Actes 27, versets 15 à 17, lorsqu'il est dit que les marins qui étaient à bord du navire sur lequel Paul voguait vers Rome, à un moment donné, ont dû laisser aller le bateau à la dérive. Ils ne pouvaient plus rien faire. Le vent soufflait. Et en quelque sorte, ils ont abandonné le bateau au vent. C'est le même terme qui est utilisé. Il y a là la question du souffle. Et je dirais ceci, c'est que le Saint-Esprit est le souffle de Dieu qui rend la parole audible, accessible à l'homme. Vous savez que ce qui vous permet d'entendre ma voix maintenant, c'est mon souffle. Si je n'avais pas de souffle, vous ne pourriez pas entendre ma voix. Dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ est la parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu, Jésus-Christ, son enseignement, son message, son caractère, sa vie, cette parole me devient accessible, me devient audible, je la comprends, à cause d'un souffle. Ce souffle, c'est le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas le souffle de Dieu, et le terme est utilisé, le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, à diverses reprises déjà, c'est le mot souffle qui est utilisé. Et le mot grec pneuma, d'ailleurs, c'est aussi le mot utilisé pour parler des pneus, des poumons, tout ce qui concerne précisément l'air, n'est-ce pas? Le souffle. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu qui rend la parole de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ audible, accessible à notre cœur. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Vous connaissez ce texte, hein, de Timothée 3, 16. Littéralement, dit le texte grec, toute l'écriture est respirée de Dieu. Ce serait la meilleure des traductions. L'écriture, Dieu la respire en quelque sorte. Il la souffle. Et comment est-ce qu'il la souffle pour qu'elle nous soit accessible? Il la souffle par le ministère du Saint-Esprit. Si cette écriture n'était pas soufflée en quelque sorte par le Saint-Esprit, nous serions, vous et moi, absolument incapables de la comprendre. Et c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 2:12, il est dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je ne pourrais pas comprendre les Écritures sans ce ministère du Saint-Esprit. Il est seul capable d'interpréter la pensée de Dieu mise en mots par le croyant. Je vais vous donner une autre petite illustration, puis on termine là parce que le temps passe terriblement vite. J'ai ici un microfilm. Un petit microfilm, c'est la Bible. Vous avez là, sur ce microfilm, la Bible tout entière. Je vais vous donner le contenu exact. Vous avez, si vous voyez de près, vous avez des petits rectangles, et chaque petit rectangle représente 50 pages de la Bible. Ça, c'est une Bible qui est réduite 250 fois. Pour la lire convenablement, il faut la grossir très très sensiblement, n'est-ce pas? Là, vous avez du 3 x 4 cm. Enfin, j'ai sous les yeux une quantité d'éléments intéressants. Si je veux pouvoir la lire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'ai un microscope. Si j'ai un microscope qui grossit 100 fois, le message de ce livre me devient accessible. Ça ne sert à rien d'avoir la Bible entre nos mains. Même écrit avec les plus gros caractères. En quelque sorte, c'est le Saint-Esprit qui me permet de déchiffrer. Le Saint-Esprit l'a fait, si vous voulez, office de microscope. Ou de loupe grossissante. J'ai sous les yeux la remarque qu'en projetant une image de 6,60 m sur 8,80 m, on pourrait restituer ce petit carré grandeur nature. Rendez compte. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Et pour beaucoup, pour tous ceux qui sont en dehors de Christ, finalement, la Bible, c'est encore ça. Et le travail du Saint-Esprit pour nous amener à la régénération, à la nouvelle naissance, c'est précisément
d'éclairer tout cela, de le grossir, de l'interpréter pour que cela le soit accessible.
Alors je dirai encore, dans la prochaine étude, quelques mots sur ce cinquième point, le rôle du Saint-Esprit en tant qu'inspirateur et enseignant des Écritures, parce que cela va avoir une influence notamment sur le vocabulaire. Vous savez, Dieu aime la précision dans le vocabulaire, et le Saint-Esprit aime aussi la précision dans le vocabulaire. Et quand Dieu parle du Saint-Esprit, eh bien, il utilise des mots dans la Bible, et nous devons avoir le respect de ces mots, et ne pas les prendre l'un pour l'autre, mais vraiment respecter la pensée de Dieu dans l'utilisation du vocabulaire. Mais je vais m'arrêter là, nous allons simplement prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces règles de base que tu nous donnes face à ta parole. Nous voulons te remercier pour le cadeau de ta parole. Ta parole est un livre extraordinaire. C'est ton livre. C'est ce que tu as voulu nous communiquer de ta pensée, de tes desseins, de ton caractère, de ta personne, de tes plans pour le présent et l'avenir, pour l'éternité. Seigneur, merci de nous l'avoir donné. Mais merci en cette fin de matinée pour le ministère du Saint-Esprit. Ce souffle qui rend audible, compréhensible, accessible la parole éternelle, la parole faite chair, la parole écrite. Seigneur, merci pour le ministère du Saint-Esprit, merci pour l'Ancien Testament, merci pour les Évangiles, pour le Livre des Actes, pour les Épîtres, pour tout cet ensemble. Seigneur, ô combien nous te remercions. Aide-nous à ne pas être paresseux, à lire vraiment toute ta parole, pour avoir un équilibre dans notre approche de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Accompagne-nous maintenant et garde-nous tout près de ton cœur, en Jésus-Christ. Amen.